RMC, cours numéro 1.
Bienvenue sur cours numéro 1 pour le podcast quotidien de ce Wimbledon 2026. On a vécu une journée assez folle puisque on reste encore sous le choc. Franchement, je vous le dis, du quart de finale qui s'est achevé il y a une heure maintenant, entre Novak Djokovic et Félix Auger-Aliassime, parce qu'on a assisté à un monument de tennis. Un match qui va rester longtemps dans les mémoires, parce que ce match est allé quasiment au bout de la nuit, quasiment au bout du couvre-feu, puisqu'il s'en est fallu de 5-6 minutes qu'on ne dépasse l'heure fatidique de 23h en local time. Mais ce qu'on retient, c'est l'extraordinaire performance d'un homme de 39 ans qui s'est battu comme un chien pour aller chercher un succès absolument extraordinaire face à un garçon beaucoup plus jeune que lui. Au bout, c'est l'expérience qui a fait la différence. Pas que l'expérience, c'est aussi le fait de savoir que des matchs comme ça, il en a gagné des dizaines et des dizaines, et que voilà, il s'accroche à son rêve d'aller chercher un 25e grand chelem. Alors oui, Félix Auger-Aliassime a échoué, mais quel courage il a eu. On ne peut que lui rendre hommage, parce que perdre 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 au bout de 5h15, oui, j'ai bien dit 5h15, c'est juste extraordinaire. Il n'a jamais vraiment été en position de gagner, parce qu'il a toujours couru après le score. Il a eu le mérite de recoller à deux manches partout, mais dans le cinquième, c'est lui qui courait après le score, mais il a été admirable. Il a juste coincé dans la dernière ligne droite, puisque ce tie-break, il le perd 10 points à 4 de manière assez nette. Mais ce qu'on constate, c'est qu'une fois de plus, Novak Djokovic, sur le plan mental, il a été monumental. Il commet zéro faute directe dans ce super tie-break, et c'est juste extraordinaire, cette capacité qu'il a à rester concentré, à repousser ses limites, à se faire mal, parce qu'il y a un point notamment qui est crucial dans ce tie-break où il se bat comme un chien. Oui, l'expression, je crois qu'elle mérite d'être prononcée, parce que il s'arrache, quitte à pourquoi pas se déchirer les ischios ou la cuisse, mais il envoie un message à son adversaire d'en face en disant: tu vois, t'as vu ce que je suis capable de produire à ce moment du match. Et finalement, il a eu gain de cause. Il est parvenu à écœurer, j'ai envie de dire, le jeune Canadien qui pourtant a probablement disputé le plus beau match de sa carrière. On n'a pas eu le temps de lui demander, parce que dans ces cas-là, les mecs, ils sont tellement crevés en conférence de presse qu'on a droit à 2-3 questions. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'il avait livré un combat énorme contre Rafael Nadal en 2022. Souvenez-vous, à Roland-Garros, il s'était incliné 6-3 au 5e set. Donc c'est du même acabit. Franchement, c'est du même acabit. Il a peut-être plus de regrets, parce que là, tu arrives au bout du bout, tu entrevois le succès quand l'arbitre annonce 6 games all, match tie-break, meilleur des 10. Mais ce tie-break, il l'a mal négocié, malheureusement. Et je pense qu'ils étaient tous les deux au bout de leur vie. Il y a eu un rallye terrible où on les voit tous les deux se mettre la main sur les genoux, parce que voilà, ils avaient plus d'oxygène, il n'y avait plus de souffle. Et c'est là où il est fort, Djokovic. Et c'est là qu'il faut sortir la stat, qui est juste extraordinaire, parce qu'on est obligé de revisiter son palmarès. Et la conclusion qui s'impose, c'est que Novak n'a jamais perdu un match qui a dépassé 4h56. Je répète, il n'a jamais perdu un match qui a dépassé 4h56. Et j'ai même une liste de 6 rencontres où il est allé chercher donc la victoire, où il a fait craquer son adversaire. Alors, je vais commencer par le jeune Djoko, puisque c'est important de savoir à quand ça remonte, cette qualité, cette résilience. C'était à Wimbledon 2007, quart de finale, il bat Baghdatis, 5 heures de match. La finale de légende à l'Open d'Australie 2012 contre Nadal, on s'en souvient tous, 7-5 au 5e, 5h53. L'Open d'Australie 2013, 8e de finale contre Wawrinka, 5h02. Roland-Garros 2018, la demi-finale contre Nadal, 18 au 5e. C'était juste avant le match de Joe, vous vous en souvenez. 5h14, la finale de Wimbledon, bien sûr, 2019, contre Roger Federer, 4h57. Et puis donc, ce nouveau chef-d'œuvre face à Félix Auger-Aliassime en quart de finale de Wimbledon, 5h15. On parle souvent de la statistique noire de Yannick Sinner, qui souffre quand les matchs durent très longtemps. Ben là, on a le contraire. C'est-à-dire que c'est un garçon qui est quasiment imbattable quand le quand le chrono avance et qu'on arrive à quasiment 5 heures de match. Une stat folle, quoi. Quand on est obligé de la vérifier, on se dit mais c'est pas possible. Et ça, dans le vestiaire, bah, les joueurs le savent. Les joueurs le savent que plus le match avance, plus c'est compliqué de battre Djokovic parce qu'il a une capacité que les autres n'ont pas à se faire mal, à pousser la machine jusqu'à ce qu'elle explose. Et ben non, là une fois de plus, c'est lui qui sort vainqueur de ce match. Et je vous propose d'écouter sa petite interview sur le court, parce qu'elle est très intéressante. Donc il était lessivé, le public était aux anges, mais il a fait l'effort de sortir encore des phrases définitives, des phrases mythiques. Écoutez-le.
These are kind of moments that I still play tennis for, and I'm for sure. As you know, I was telling the kids to go to sleep after the fourth, but they didn't want to listen. And I'm glad they stayed, because it was honestly one of the best matches I was part of on this court in my career. And yeah, what was your question?
Alors je vous traduis, hein. C'est le genre de moment pour lesquels je continue à jouer au tennis. À la fin du quatrième set, j'ai dit aux enfants d'aller se coucher, mais je suis heureux qu'ils soient restés car c'est l'un de mes plus beaux matchs sur ce court. Il était tellement un petit peu ailleurs, dans le brouillard, et il dit à l'intervieweur, bon, c'était quoi votre question? Il était exténué, et c'est logique, à 39 ans, tu sors pas indemne d'un tel combat. Je peux vous dire qu'il avait demandé à l'ATP d'avoir un nombre de questions restreint en conférence de presse, puisqu'il est venu, vers minuit. Et juste avant, donc, cet extrait que je vous passe, il avait quand même dit « J'aurais aimé que ce soit une finale ». Parce que oui, ce n'était qu'un quart de finale. Il lui reste deux obstacles avant d'aller chercher le 25e. Bon, maintenant, sa chance, c'est qu'il a deux jours de repos avant le match de vendredi. Le match de vendredi qui va l'opposer, bon, vous savez tous, hein, à Yannick Sinner. Est-ce que ça va suffire pour recharger les batteries? On sait qu'il est très précautionneux, qu'il fait tout ce qu'il faut pour soigner son corps. Il fait appel à toutes les méthodes, cryothérapie, tout y passe. Maintenant, il va défier le tenant du titre, Yannick Sinner. Ça nous rappelle évidemment la demi-finale de l'Open d'Australie où il avait éteint l'Italien en 5-7. Est-ce qu'il est capable de reproduire le même genre de perf? C'est pas évident, parce qu'il le disait aussi en conférence de presse, en Australie c'était le début de saison, t'as une fraîcheur naturelle. Là quand même, ils sont tous un peu sur les jantes, et puis surtout, il s'est pas épargné, puisqu'il a eu quand même des combats très compliqués, le Serbe, depuis le début de ce tournoi, un set perdu contre Rinderknecht, un set perdu contre Roman Safiulin, et puis ce monument de tennis donc contre Félix Auger-Aliassime, qu'on est obligé de féliciter, parce que franchement, on ne l'attendait peut-être pas à ce niveau. Ben voilà, il lui manque encore un truc, mais il était quand même très optimiste. Il va essayer de faire les choses bien pour préparer la tournée aux États-Unis, en sachant qu'il adore jouer sur ciment, il adore l'US Open, il l'a dit, il a fait demi-finale l'an passé. Donc Félix, qui va probablement être tête de série 4 ou 5 à Flushing, il faudra qu'on ait un œil sur lui, parce que ce match, malgré la défaite, va le rebooster. Ça n'a rien à voir avec l'échec en quart de finale à Roland-Garros, et on en avait parlé, sa conférence de presse était assez incroyable, où il s'était quasiment auto-détruit. Donc Yannick Sinner, bah on en parle parce que lui, il était sur le court numéro 1, il a joué en début d'après-midi, ça s'est très bien passé contre Yann Lennart-Struff, il a été chirurgical. Je dis ça parce que il gagne en 3, 7-5, 7-6, 6-3, mais il s'est fait un peu peur quand même dans la deuxième manche, puisqu'il a dû sauver une balle de set qui était assez dangereuse. Mais finalement, lui aussi, comme Djokovic, quand arrive le moment chaud, le tie-break, eh ben il est là, il répond présent, il s'est appuyé sur un extraordinaire service. Ce sera sa 10e demi-finale en chelem, déjà à son âge. Et puis, on note tous que même si en fond de court, il dégage pas le même sentiment d'invulnérabilité, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'il a progressé au service. D'ailleurs, il a remporté 85% de ses points derrière sa première balle. Ça, c'est vraiment un chiffre qui veut dire beaucoup de choses et qui te permet de voyager quand tu joues sur herbe. Bon, maintenant on l'a vu qu'il avait un petit strap au niveau de l'épaule, donc il est peut-être pas à 100%, mais face à Struff, donc qui jouait son premier quart de finale de Schlem, ça suffit. D'ailleurs, l'Allemand l'a reconnu avec beaucoup de fair play. Donc, Sinner Djoko, c'est le match qu'on attendait lors du tirage au sort. Bien, on l'aura donc vendredi. Ce sera le premier match, a priori, donc de la journée de vendredi, et ça promet des étincelles parce que là les enjeux sont colossaux. Sinner a besoin de gagner un chelem après deux échecs à l'Open Australie et à Roland, et Djoko lui sait que c'est sur cette surface qu'il peut aller chercher le 25e, mais voilà, il a le numéro 1 mondial à jouer, et peut-être qu'après, en finale, deux jours plus tard, il aurait le numéro 2 mondial à jouer. Donc c'est-à-dire qu'il aurait joué le 4, le 1 et le 2. On n'en est pas encore là, hein, mais c'est tout à fait possible. Alors le 2, justement, la tête de série numéro 2. Oui, j'ai dit 2, non, c'est 3. Hein, il est 3e mondial, puisque Alcaraz est absent. Bah, la tête de série numéro 2, elle s'en est sortie, Sacha Zverev, puisque on l'avait quitté lundi soir à 2-7-0, 3 partout, et puis le couvre-feu était arrivé, donc il a fallu ranger les raquettes et repartir au vestiaire et repartir au combat. Mais en début d'après-midi, ça ne s'est pas passé comme prévu pour Zverev, puisque peut-être qu'il avait mal calculé son échauffement, mais il est apparu un petit peu timoré, et il s'est fait cueillir au menton, puisque en une dizaine de minutes, il avait perdu le 3e set, quoi, en perdant les 3 jeux. Donc il a dû repartir au combat face à Jiří Lečka, mais Lečka lui aussi, il a craqué dans le tie-break du 4e, ce qui fait donc que Zverev se qualifie pour son premier quart de finale ici à Wimbledon. Eh oui, c'est un scoop, c'est une vraie performance pour l'Allemand. Évidemment, quand vous gagnez Roland, peut-être que la confiance n'est pas la même, et ça lui permet donc de se présenter en quart de finale face à une sorte de bête noire. Il faut dire les choses, Taylor Fritz, puisqu'il va courir un gros danger face à l'Américain. On sait que Fritz adore le gazon. Il a été très bon là, sur les tours préparatoires, finale à Stuttgart, finale à Halle. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas le titre au bout, ok. Mais il a pu quand même voir que son jeu était très au point. De toute façon, on le sait, hein, il sait remarquablement. À Halle, il avait battu Zverev en 3-7. 6-7, 6-4, 7-5, donc il a un petit ascendant. De toute façon, l'ascendant, il l'a depuis longtemps, puisque... Alors, l'ATP, ils sont gentils, puisqu'on sait qu'ils ont un accord, un deal avec la Lever Cup, mais si vous regardez les face-à-face entre les deux joueurs, si vous n'êtes pas vigilant, vous arrivez à la conclusion que Fritz a gagné les 7 derniers matchs. Ça fait beaucoup. Bon, dans ces 7 derniers matchs, il y a 2 matchs en Lever Cup, donc vous me permettrez que je les enlève. Donc, Fritz a gagné les 5 derniers matchs. En fait, l'Allemand n'a plus battu Taylor Fritz depuis un match à Rome, donc sur terre battue, c'était en 2024. Ça fait plus de 2 ans. Il va être très méfiant, l'Allemand, parce que Fritz est un garçon qui a les dents qui rayent le parquet, qui possède peut-être une fraîcheur physique et mentale supplémentaire par rapport aux autres joueurs, puisqu'il a quasiment pas joué sur terre battue pour soigner son genou, une tendinite au genou qui lui est pourri le début de saison. Donc ça va être un match très très intéressant entre le champion de Roland-Garros et Taylor Fritz, qui a déjà fait une finale à l'US, qui rêve de jouer une finale sur le gazon londonien. Il en a les capacités, moi j'en suis convaincu, d'autant que il sait très bien que l'autre quart de finale du bas de tableau, c'est Cobolli-Ferry, donc ça n'a rien à voir avec les monstres qui sont dans le haut de tableau. Donc c'est quasiment, j'ai envie de dire, une demi-finale avant la lettre, hein. Zverev Fritz, donc ce sera demain mercredi sur le court numéro 1, puisque c'est l'autre affiche qui a été choisie par les organisateurs. Cobolli Ferry, logique, le dernier représentant britannique, oui, bon, même si bon, on sait qu'il est né en France et que ses parents sont français, mais bon, il joue pour la Great Britain, Arthur Ferry, et on va voir comment il aura digéré son exploit face à Dimitrov. Dans le tableau féminin, eh bien écoutez, on tient notre première demi-finale, et c'est pas du tout ce que j'avais envisagé, je vous le cache pas. Je pensais qu'Osaka, sur la lancée de sa victoire face à Aryna Sabalenka, prendrait le dessus sur Murova. Eh bien pas du tout, la japonaise s'est inclinée, et en 2 manches, s'il vous plaît. Donc bravo à Mukova qui avait perdu ses 2 premiers quarts de finale ici à Wimbledon. Eh bien elle va disputer, et c'est logique, c'est mérité, sa première demi ici à Londres. Ça perpétue la tradition tchèque, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, elles ont un truc, techniquement elles sont parfaites, elles savent faire plein de choses, et donc elle a l'occasion de rejoindre au palmarès, pourquoi pas, Markéta Vondrousova, Barbora Krejčíková, et j'en passe, et des meilleurs. Hein. Il y a tellement de joueuses tchèques qui ont brillé. Petra Kvitová, bien sûr. Est-ce qu'elle partira favorite face à Coco Gauff? C'est une vraie question. Parce que Coco Gauff, elle aussi, a décroché pour la première fois de sa carrière le dernier carré ici à Wimbledon. Une fois de plus, elle a été courageuse parce que face à Jessica Pegula, elle a perdu la première manche, 4-6. Mais derrière, eh bien, elle a fait craquer sa compatriote, 6-3, 6-3. Elle a des stats incroyables, Coco, en 3-7. Elle est quasiment injouable. Donc, il ne faut surtout pas l'amener dans un troisième set parce que c'est quasiment perdu. Donc, Mourova est prévenue, mais Coco me bluffe parce que franchement, j'avais vu son premier set contre Bencic, c'était pas bon du tout. Qu'est-ce que vous voulez ? Elle n'est pas faite comme les autres, hein, Coco Gauff. Et donc, elle complète sa collection de demi-finales en chelem. Elle désespérait de briller sur ce gazon londonien où elle avait quand même montré de très belles choses quand elle était toute jeune, puisqu'elle avait battu Venus Williams, on s'en souvient, et on se disait, bah, voilà, une prétendante au titre. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Elle a traversé quand même des périodes difficiles parce que quand votre service n'est pas au point sur herbe, bah, vous exposez quand même à de graves déconvenues. Mais voilà, l'essentiel est là. Elle est en demi et ça promet quand même un super affrontement contre Mukova. Ça va être une belle opposition de style. Mukova sait faire plein de choses. Est-ce que ça suffira pour perturber Coco Gauff? C'est pas évident. C'est pas évident, mais bon, pour moi, c'est du 50-50. Voilà. Mercredi, on aura les deux derniers quarts de finale féminins. Hein, vous connaissez les affiches. Mertens Noskova, encore une tchèque, et Paulini Kostiuk. Paulini est la seule à avoir atteint la finale ici à Wimbledon. C'était il y a 2 ans. Est-ce qu'elle va pouvoir profiter de ce petit avantage? C'est une vraie question. Kostiuk, très régulière. Elle fait la meilleure saison de sa carrière. Mais Paulini a des atouts et surtout elle a retrouvé le sourire. Et quand Jasmine sourit, elle est très dangereuse. Voilà, sinon je voulais vous dire qu'il n'y a plus de Français chez les juniors. Daniel Jade et Mathis Domingue qui ont été éliminés par des joueurs qui sont déjà bien connus, à savoir le néerlandais Thijs Boogaard, qui avait eu balle de match contre Medvedev à Zertogenbosch il y a quelques semaines. Et puis le bourreau du joueur d'Istres, c'est tout simplement le fils de Leighton Hewitt. Voilà, donc il y a des gènes, et donc il n'y a plus de Français. Et un regret aussi pour Manu Guinard, qui était associé à Guido Andreozzi en double messieurs. En quart de finale, ils ont joué les numéros 1 mondiaux, à savoir Eliovara et Patten, l'anglais. Ils ne sont pas passés loin. Ils s'inclinent 7-6 au troisième set, donc au super tie break. Et ce qui est complètement dingue, c'est que le Finlandais et l'anglais ont remporté tout à l'heure leur troisième super tie break consécutif, puisqu'ils ont passé ric-rac contre la paire Kiger-Track et surtout contre Pavlasek Rickel. Donc ils ont une sorte de savoir-faire dans le Money Time, c'est juste impressionnant. Et oui, bah c'est pareil, il ne faut pas les emmener au super tie break. Voilà, c'est la leçon de tout ça. Il reste une chance pour les Français dans ce tableau de double, c'est la paire Dumbia-Reboul qui va jouer ce mercredi contre les redoutables Allemands Kevin Kravets et Tim Putz. Voilà, j'espère avoir été complet. On a vécu encore du beau tennis avec des matchs qui se finissent quasiment juste avant le couvre-feu. Ça, c'est la particularité de ce Wimbledon. On joue en indoor. Il s'en est plein d'ailleurs, Novak Djokovic. Oui, j'ai oublié de vous dire, c'est que la juge-arbitre est venue voir les deux joueurs à 19h40 pour leur dire qu'elle allait fermer le toit. Et là, Djokovic dit, mais c'est pas possible, quoi. Pourquoi vous fermez le toit? Il fait encore beau, la visibilité est bonne, il n'y avait pas de soucis. Lors de mon match, dans un match précédent, le toit a été fermé à 20h30, mais elle est où votre règle? On a l'impression que vous avez des règles, mais vous ne les connaissez pas. Il était un peu fou furieux, et même Félix Auger-Aliassime, lui, aurait bien continué une heure de plus dans les conditions diurnes, quoi. Mais que voulez-vous? C'est Wimbledon, et quand la décision est prise, on peut pas discuter. C'est comme ça. I'm afraid not. Voilà, je termine sur l'une des phrases préférées des Anglais. Allez, ciao ciao, bonne nuit.